VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Idrissa Seydoudia et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie. Bienvenue à l'édition du jeudi 23 avril 2015. À la une ce soir.
La RDC bien décidée à extrader le transfuge centrafricain, l'ex-ministre Romaric Vomitadier, condamné dans une affaire de mœurs.
Des milliers de Sud-Africains défilent à Johannesburg pour dénoncer les violences xénophobes dont ont été victimes des immigrés africains.
En revanche, pas de marche à Conakry où l'opposition avait été appelée à une manifestation, mais à Labé, un protestataire a été tué.
Le président Barack Obama présente des excuses aux familles de deux otages tués par inadvertance en Afghanistan. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les suites de l'arrestation en RDC de l'ex-ministre centrafricain Romaric Vomitadier, condamné dans une affaire de mœurs à Bangui, il s'était enfui et avait traversé la frontière congolaise. Kinshasa assure vouloir l'extrader. C'est Alexis Tambwe Mwamba, le ministre congolais de la justice, qui a mis fin au suspense lors d'une conférence de presse.
Nous avons effectivement dans nos services l'ancien ministre de la jeunesse centrafricain, il était ministre jusqu'il y a quelques mois, qui a été condamné chez lui pour un viol de mineur et qui a fui la prison, enfin n'a pas fui la prison, il avait demandé une autorisation pour aller se faire soigner. Et de là il a fui, il a traversé l'Ubangi et il est allé à Zongo. Lorsque nos services ont été informés, nous avons demandé qu'il soit acheminé à Kinshasa. Il est à Kinshasa en garde à vue. Hier, j'étais en communication téléphonique avec le ministre centrafricain de la Justice. Et lorsque nous recevrons une demande d'extradition, nous allons leur expédier dans son pays.
En Afrique du Sud, des milliers de Sud-Africains ont défilé jeudi à Johannesburg pour marquer leur rejet des violences qui ont ciblé ces dernières semaines des immigrés africains et suscité l'indignation à travers le continent. La manifestation à laquelle participaient aussi des immigrés chinois a traversé plusieurs quartiers, dont le très cosmopolite Hillbrow, où vit une forte communauté africaine, coiffeurs nigérians, vendeurs à la sauvette Mozambique et restaurants éthiopiens.
En Belgique ce soir, les dirigeants européens tentent de répondre enfin au drame des migrants. Rien que cette année, presque 1000 personnes sont mortes en tentant de traverser la mer Méditerranée vers l'Europe. Les précisions d'Echa Grover.
L'Europe déclare la guerre aux trafiquants, a dit Dimitris Avramopoulos, commissaire à l'immigration de l'Union européenne, au sommet des dirigeants européens aujourd'hui à Bruxelles. Les 28 pays s'engagent à tout faire pour identifier, capturer et détruire les bateaux avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants, selon un projet de déclaration finale obtenu par l'AFP. La Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne ont offert des navires et des hélicoptères pour contenir le flux de migrants traversant la Méditerranée. Mais le Premier ministre David Cameron maintient que les migrants ne pourront pas demander l'asile au Royaume-Uni car ils seront emmenés vers les pays les plus proches, l'Italie, la Grèce et Malte. Aujourd'hui, 5 des 28 pays de l'Union européenne accueillent presque 70% des migrants. Les Nations unies ont donc demandé un nouveau plan de l'Union européenne pour renforcer les capacités dans ces pays. L'ONU propose aussi d'écourter le temps nécessaire au traitement des demandes d'asile, un processus qui prend actuellement un an.
En Guinée, l'opposition avait appelé à manifester pour l'annulation du calendrier électoral. Les forces de l'ordre ont été déployées à Conakry, où il n'y a pas eu de marche. À Labé, par contre, il y a eu des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants. D'après l'opposition guinéenne, un manifestant a été tué. Sur place à Labé, écoutons Lali Diallo, un militant de l'UFDG, le principal parti d'opposition.
Aujourd'hui tôt, le matin, tous les militants de l'opposition se sont retrouvés dans les rues de la paix pour faire la marche pacifique demandée par l'opposition. Mais très malheureusement, à 6 heures du matin, tous les carrefours étaient pris par les forces de l'ordre. Même le siège de l'IFTG a été encerclé tôt le matin, mais personne ne s'y trouvait en ce moment. La marche a débuté aux environs de 9h, 9h30. Les forces de l'ordre, elles ont essayé de disperser les gens. Ils ont tiré sur les manifestants de gaz lacrymogène et même des balles réelles. Ils ont même tué un jeune nommé Boubacar Sadio Diallo, âgé de 27 ans, originaire de Dalin. Il est actuellement là à la morgue de l'hôpital régional de la baie. Il y a un accrochage entre forces de l'ordre et manifestants. Toutes les routes sont barricadées, toutes les boutiques sont fermées, toutes les activités sont ralenties à la baie. Il n'y a que jet de projectiles et tirs de gaz lacrymogènes entre manifestants et forces de l'ordre.
Au Bénin, une organisation de la société civile a affirmé avoir relevé de nombreux dysfonctionnements dans la distribution des cartes d'électeurs susceptibles de permettre des fraudes lors des élections législatives prévues dimanche. Le retrait des cartes d'électeurs biométriques, qui a commencé samedi dernier, doit s'achever demain, 48 heures avant le scrutin, pour les 4 470 500 électeurs inscrits. Au Centre national de traitement des cartes d'électeurs, de nombreuses plaintes ont été enregistrées. Les responsables reconnaissent d'ailleurs certaines erreurs liées à des défaillances techniques.
Le procès à huis clos du journaliste angolais Rafael Márquez, poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse, a été reporté au 14 mai selon l'AFP. Un accord à l'amiable pourrait être trouvé entre les deux parties.
Le chef de l'État kényan, Uhuru Kenyatta, a suspendu ce jeudi le président et la vice-présidente de la commission anticorruption, tous deux visés par une procédure de destitution lancée par l'Assemblée nationale alors que l'organisme enquête sur plusieurs hautes personnalités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a présenté aujourd'hui ses excuses aux familles de deux otages tués accidentellement en janvier dans une opération antiterroriste américaine à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Selon la Maison-Blanche, l'Américain Warren Weinstein et l'Italien Giovanni Loporto, qui étaient détenus par Al-Qaïda, ont été tués dans un raid mené par un drone américain. Les deux hommes travaillaient sur des projets humanitaires au Pakistan lorsqu'ils ont été enlevés. S'exprimant à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a présenté ses excuses personnelles aux familles des victimes pour l'incident.
As president and as commander-in-chief, I take full responsibility for all our counter-terrorism operations.
En tant que président et commandant en chef, je prends l'entière responsabilité de toutes nos opérations de lutte contre le terrorisme, y compris ceux qui ont, par inadvertance, ôté la vie à Warren et Giovanni, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Barack Obama a dit à la presse que les renseignements disponibles à l'époque laissaient croire qu'aucun civil n'était sur les lieux du raid et qu'il n'était pas possible de capturer les terroristes visés par l'opération. Selon les autorités américaines, Ahmed Farouk, un Américain et chef d'Al-Qaïda, a été tué dans la même opération. Un autre Américain, Adam Gadan, porte-parole du réseau terroriste, a lui été tué dans une autre opération américaine en janvier.
Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a poursuivi ses raids contre les rebelles chiites, deux jours après l'annonce de la fin de sa campagne aérienne. Eddie Issangou.
Ces raids se poursuivent alors que le gouvernement saoudien avait annoncé mardi la fin de la phase intensive des frappes. Sur le plan diplomatique, les premiers ministres du Pakistan, qui refusent pour le moment de s'associer à l'intervention militaire de la coalition arabe, est arrivé aujourd'hui à Riyad pour discuter du Yémen. Les autorités pakistanaises avaient salué l'annonce par Riyad de l'arrêt de la campagne des raids intensives au Yémen. Les rebelles houthis exigent l'arrêt total des raids aériens avant une éventuelle reprise du processus politique sous l'égide des Nations Unies. Ils ont salué les efforts positifs des Nations Unies et leur soutien déclaré au dialogue national, alors que l'Arabie Saoudite et ses alliés semblent préférer un processus régional. L'Organisation mondiale de la santé a fait déjà état d'un bilan d'un millier de morts et de 4352 blessés, civils et militaires, au Yémen depuis le 13 mars.
Corée du Nord, selon un nouveau rapport, la Chine pense que Pyongyang aurait déjà 20 ogives nucléaires, un nombre plus élevé que ce qu'on a toujours cru. et la Corée du Nord pourrait doubler son arsenal nucléaire d'ici à l'année prochaine, dit dans un article le Wall Street Journal.
Pour leur part, l'Iran et les 6 puissances mondiales du P5+1 ont repris leur pourparlers sur le nucléaire à Vienne. Ils doivent transformer leur accord cadre en accord définitif d'ici au 30 juin. Coup d'œil maintenant sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Grosdidier.
Le conseil d'administration du Centre africain du riz, Africa Rice, actuellement basé à Cotonou au Bénin, a entamé les démarches nécessaires au retour du siège de l'organisation à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un communiqué précise que le transfert de la plupart des fonctions du siège dans le nouvel emplacement devrait être chose faite d'ici à septembre 2015. Pour encourager ce retour, l'administration Alassane Ouattara aurait offert à Africa Rice des locaux à Abidjan. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, une bourse commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a choisi le London Stock Exchange pour organiser la deuxième édition des BRVM Investment Days. Les journées BRVM pour les investissements, signalent les médias ivoiriens. La bourse organise une rencontre de haut niveau à la Bourse de Londres le 28 avril 2015. But de l'opération, présenter le marché financier de l'UOMOA aux investisseurs internationaux, notamment britanniques. Et puis, chute des prix du cacao au mois d'avril au Cameroun. Selon l'agence APA, le prix d'un kilogramme se négocie actuellement à 1250 francs CFA contre 1450 francs CFA au début du mois. Un manque à gagner est considérable pour les producteurs. Selon l'Office national du cacao et du café, l'ONCC, cette chute des cours est due aux pluies qui s'abattent sur les principaux bassins de production au Cameroun. Néanmoins, a signalé le Conseil interprofessionnel de cacao et de café, la campagne cacaoyère 2014-2015 reste largement satisfaisante pour l'instant.
Et Begessikoura nous a rejoint pour notre page sport. Donc bonjour Bagassi, des news de foot, suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous. La Juventus Turin s'est hissée en demi-finale en obtenant un nul 0-0 mercredi à Monaco. Vainqueur 1-0 à l'aller sur un pénalty litigé de Vidal, la Juve, deux fois sacrée dans la compétition Rennes en 1985 et 1996, retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2003. Lorsqu'elle avait atteint la finale, perdue au tir au but face à l'AC Milan. Quant au Real, après le 0-0 de l'aller face à son rival de l'Atlético Madrid, il a remporté le match retour au 1-0, but de Chicharito Hernandez à la 88e minute. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu demain vendredi à la mi-journée au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.
Et Abidjan pourrait avoir un stade olympique d'une capacité de 60 000 places?
Oui, c'est un don de la Chine et sera construit à partir de 2016 en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2021. Une cité olympique sera également construite autour du stade, bâti sur une superficie de 20 hectares dans la commune d'Anyama au nord d'Abidjan, a indiqué à l'AFP le service de communication du ministère des Sports. Les travaux d'une durée de 24 mois débuteront en janvier 2016, selon le communiqué du gouvernement ivoirien.
Enfin, NBA. Kawhi Kawhi Leonard est donc désigné meilleur défenseur.
Voilà, l'ailier fort de San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, a été élu meilleur défenseur de la NBA. Et Leonard, 23 ans, succède au pivot franco-américain des Chicago Bulls, Joakim Noah, est distingué à l'issue de la saison 2013-2014. En football, on sait qui est défenseur. En basketball, comment ça se passe, Idrissa?
On regarde les statistiques. et puisque vous voulez parler anglais, on dit Leonard.
Leonard. Okay. Merci bien, c'est tout pour l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie, place au dossier du jour. Dernier jour de campagne au Togo, les deux poids lourds font leur dernier meeting dans leurs fiefs respectifs. Faure Gnassingbé, le président sortant, est à Kara et Jean-Pierre Fabre, son challenger, tient un meeting au stade de Lomé. Contrairement aux autres années, la campagne s'est déroulée sans violence. Écoutez Marie Dogbé de l'organisation Synergie citoyenne pour des élections démocratiques.
Nous avons constaté que tous les candidats ont pu quand même, cette fois-ci, circuler librement sur l'étendue du territoire. Et même les partisans des candidats se sont croisés dans les rues, dans les villes, et il n'y avait pas de bagarre ni de provocation comme dans les années passées. Donc, la campagne s'est passée dans le calme et sans violence, et tout le monde, tous les candidats, avec leur convoi, ont circulé librement dans les villes, dans les villages, et partout sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que nous avons observé.
Qu'est-ce que vous dites au sujet de cette querelle autour du système informatisé de transmission des résultats?
Oui, bon, et là, c'est les techniciens qui ont en train de faire des remarques et qu'ils ont même envoyé des lettres au niveau de la CENI. Mais nous, organisation de la société civile, nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe et ce qu'ils ont prévu, nous attendons pour voir comment ça va fonctionner et savoir ce que nous allons dire. Parce que là, à l'état actuel des choses, nous n'avons pas de preuves techniques pour dire ceci peut marcher ou ceci ne peut pas marcher. C'est aux politiciens de faire ces remarques qu'ils sont en train de faire et nous sommes en train de suivre l'évolution des événements.
Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des contestations des résultats?
Ce qui est sûr, quand il y a des problèmes, il y a des griefs qui sont déjà soulevés, ça porte et plus ou moins atteinte à la crédibilité de la chose. Alors, nous disons que comme il y a cette fois-ci les partis prennent des décisions responsables en envoyant des courriers en bonne et due forme. Nous pensons que de l'autre côté, l'institution chargée de l'organisation, la CENI, qui aussi est une institution responsable, qui cette fois-ci prouve qu'elle veut vraiment faire les choses dans la transparence, nous espérons qu'ils vont réagir et essayer de voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire pour éviter qu'il y ait des contestations à la fin. C'est ce que nous espérons et c'est ce que nous souhaitons.
Est-ce que vous attendez à des résultats proclamés assez rapidement, en 2-3 jours par exemple?
Puisque, vu la disposition que la CENI lui-même dit avoir pris, et puis tout ce qu'ils sont en train de faire, nous disons, nous pensons, nous espérons que normalement, si tout va bien, en 48 ou 72 heures, nous devons déjà avoir les résultats. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs.
Marie Dogbé de Synergie citoyenne pour des élections démocratiques. Elle a été jointe à Lomé par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
La signature de l'accord de paix d'Alger sera-t-elle synonyme de paix? C'est à cette question que les différentes communautés des régions du nord du Mali ont tenté de répondre. Pour certaines, il faut le vivre ensemble entre les communautés à la base, la cohésion, l'entente pour une paix durable. Exemple a été pris sur la récente caravane de la communauté Kel Antassar dans le cercle de Goundam. Les différentes communautés vont se donner la main aussi pour accélérer le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Toutes les communautés présentes à cette rencontre ont salué la future signature de l'accord d'Alger le 15 mai prochain à Bamako. Mais elles doutent que cette signature soit synonyme du retour de la paix au Mali. Baba Ouldou Sidi Mohamed, maire de la commune de Tilemsi.
Nous n'avons pas voulu parler du système de mouvement et l'État parce que nous savons que l'État est en train de parler avec les. Mais ce qui nous préoccupait, c'était le voisinage, c'était le vivre ensemble. Même s'il y a signature, même s'il y a accord, comment ces gens vont se regarder? Comment les voisins Africains vont continuer à leur voisinage. Donc nous sommes plutôt attelés à essayer de recoudre et de réconcilier les voisins.
Le vivre ensemble était le thème principal de la récente caravane que les leaders du cercle de Goundam ont organisée. Abdul Majib Ag Mohamed Di Nasser, chef de la tribu Kel Antassar.
Dieu merci, nous avons fini cette caravane sans incident. Ils ont été accueillis par toute la population noire et blanche. La jeunesse et les femmes, tout le monde nous a accueillis. Ce que nous, on a mis sur place sur le terrain, c'est les comités de veille. Ils vont continuer à faire le travail après nous. La deuxième étape, c'est que nous risquerons d'organiser une autre encore caravane. En ce moment, ce sera les sédentaires qui vont aller voir les nomades. Et je pense qu'avec les deux caravanes, le Goundam va retrouver sa tranquillité.
Selon l'ancien député Alassane Abba, c'est l'absence de l'État qui a créé un vide, donnant occasion à l'installation de banditisme dans certaines localités.
Bon, vous savez que tout le monde sait qu'au Mali, ça ne va pas depuis des années. Au Nord, par exemple, il n'y a pas d'État. Tout le monde le sait, il n'y a pas d'armée. L'État est quasiment inexistant. Personne ne peut encore bouger. Prenez par exemple l'axe Tombouctou-Goundam. C'est un axe pratiquement coupé maintenant. Personne ne peut quitter Tombouctou, venir à Goundam sans être rançonné, sans être arrêté, sans être dépouillé de ses biens. Il y a des enlèvements de véhicules.
Quant à l'ancien Premier ministre, Mohamed Ahmed Agamani, il souhaite le retour des réfugiés.
Chacun veut prendre au niveau de ces réfugiés-là quelque chose. Alors, pour éviter tout ça, j'ai dit déjà, dès le départ, il fallait initier le retour. Il faut que ça soit pour les populations, donc localement, ou bien que l'administration malienne puisse dégager les moyens pour faire retourner ces ressortissants qui veulent revenir.
Les communautés sont décidées à se donner la main afin de faciliter le retour de tous les réfugiés. Badja Ag Amatou, député de Menaka.
Nos parents sont restés alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont l'otage de quelques individus qui veulent servir leurs seuls intérêts. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire la paix tant que des hommes qui se disent autochtones et responsables de nos communautés sont encore hors du pays. Il faut qu'ils acceptent de rentrer. Il faut qu'ils acceptent de rentrer.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Du nouveau dans la lutte contre le virus Ebola, une équipe de chercheurs de l'Université du Texas, associée à la compagnie canadienne Techmira Pharmaceutical, vient de développer un traitement expérimental appelé TKM Ebola. Dans un essai effectué sur des singes, ce traitement s'est montré efficace contre Ebola, selon un article publié dans la revue Nature ou Nature. Le docteur Dambita Kosi, chercheur à l'université Johns Hopkins, fait le point sur ce nouveau traitement.
Ils ont fait une avancée majeure dans la quête pour un traitement efficace, ciblant particulièrement l'espèce du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest. Pour mémoire, jusqu'à présent, un traitement similaire, celui de ZMapp par exemple, a été administré plutôt dans l'espèce Zaïre. Cela étant dit, ce traitement est un peu comme le ZMapp. C'est une compagnie américaine, Techmira, qui l'a mise au point. Il y a eu des études in vitro et l'efficacité a été mise au test dans 6 singes macaques.
Ce nouveau traitement vous apparaît-il très encourageant ?
Bon, c'est un traitement qui a des promesses, qui nous donne des promesses. Mais nous ne sommes qu'à l'aube. Hein. C'est une course de fond. Nous sommes à l'étape de l'expérimentation dans l'espèce animale. Il faudra maintenant, après avoir ajusté la dose, commencer l'expérimentation dans l'espèce humaine. Et si ces promesses-là sont maintenues, ce genre d'essai clinique ne pourra démarrer que peut-être en fin d'année, et sinon en début d'année prochaine dans l'espèce humaine.
Et en général, il faut combien de temps entre les débuts des essais sur l'espèce humaine et l'arrivée des médicaments et des traitements dans les pays concernés ?
Là, vous savez, hein, des fois, nous parlons de plusieurs années, hein, parce que on peut démarrer une expérience, mais on ne sait pas avec les aléas du terrain et le financement et beaucoup d'autres imprévus. Et on ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant de ressources qui ont ciblé le Ebola. Et je trouve que ça, c'est un développement très, très encourageant.
Le docteur Dambita Kosi, chercheur à l'université Johns Hopkins, il répondait à vos questions, Claire.
Et jusqu'à présent, il faut savoir qu'aucun traitement contre le virus Ebola n'a été homologué, mais plusieurs molécules, certaines expérimentales et plusieurs vaccins ont été testés ou sont en cours d'évaluation.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud. Depuis plus de deux semaines, le pays connaît un nouvel épisode de violence xénophobe. Comment expliquer ce sentiment de haine envers les immigrés? Pourquoi le gouvernement sud-africain a-t-il du mal à contenir la situation? Nous aborderons aussi un autre volet de la thématique de l'immigration. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière maritime qui laisse l'Europe perplexe. Que faut-il faire pour y remédier? Qu'est-ce qui pousse ces malheureux exilés entre les mains de véritables mafias sans scrupules? Retrouvez-moi Salwa Jafari pour un nouveau Washington Forum ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel.
La NBA, bientôt en Afrique, la Ligue nord-américaine de basketball professionnel jouera le 1er août prochain son tout premier match d'exhibition sur le continent. Celui-ci mettra aux prises à Johannesburg. Team Africa, conduite par le Britannique d'origine sud-soudanaise Luol Deng de Miami, et Team World, menée par l'Américain Chris Paul des Clippers de Los Angeles, Timothée Donangmaï a demandé à Eugène Pewa Pelama, ancien joueur et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, la portée de cette rencontre de la NBA en terre africaine.
Je pense que il est très important pour la simple raison que, un, ça développera le basketball sur le continent africain qui a un très grand potentiel humain, mais aussi ça peut être un moyen de développement socio-économique, création d'emplois, si on professionnalise le sport à une échelle continentale.
Des Africains comme Hakim Olajuwon ou encore Dikembe Mutombo se sont illustrés au sein de la NBA. Où se situe la représentation du continent aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, on a de nombreux joueurs, hein, soit qui jouent pour leur pays d'origine ou qui jouent pour un autre pays. J'en citerai quand même un petit nombre. Il s'agit par exemple des Camerounais Luc Mbamute et Joel Embiid à Philadelphia Sixers, du Congolais espagnol Serge Ibaka, du Congolais RDC Bismack Biyombo, du Sudanais anglais Luol Deng, du Nigérian Aminu Al-Farouk, du Sénégalais Djeng Gorgui ou encore des Nigérians Ezeli, Yudo, Ghanéen Vonley, Noir, Nigérians Grec Antetokounmpo Giannis ou encore des Nigérians Américains Guadala, Boris Dio, Sénégalais Français, Joaquim Noah Camerounais Français, Tim Capella Suisse Angolais, Sefalosha qui est un Suisse sud-africain, Oladipo qui est un Ghanéen, Nigérian américain, ou encore du Nigérian Onoakou, Azinze. Donc je peux dire qu'aujourd'hui en NBA, il y a de nombreux joueurs africains et même ceux qui ont évolué dans des pays, disons, européens. Cela prouve qu'il y a un énorme potentiel qui peut être développé sur le continent africain.
Quel est le potentiel de l'Afrique en matière de basketball?
Le basket africain a fait d'énormes efforts, mais doit en faire encore un peu plus parce que le basketball n'est pas encore pratiqué sur un plan professionnel, ce qui fait qu'il y a une marge de progression qui est énorme pour rattraper, que ce soit le continent européen et même le continent américain, les Sud-Américains. Mais le potentiel humain est là. C'est le continent où il y a quand même 1 milliard d'habitants et ce continent est béni sur le plan naturel, la taille, le poids, certaines facilités à pratiquer ce sport. Maintenant, il revient à y investir et à développer, que ce soit les formateurs, les conditions de jeu pour développer ce sport au plus haut niveau.
Voilà.
C'est tout pour ce journal. Un petit rappel des titres.
Oui, avant cela, précisons que c'était Eugène Pewa Palema, qui est ancien membre et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, joint à Gettysburg dans l'État du Maryland. Maintenant, un rappel des titres, Claire.
La RDC bien décidée à extrader le transfuge centrafricain, l'ex-ministre Romaric Vomitadié, condamné dans une affaire de mœurs.
Des milliers de Sud-Africains défilent à Johannesburg pour dénoncer les violences xénophobes dont ont été victimes des immigrés africains. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, présentation Idrissa Sedudia et Claire Morin-Gibour.
Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.